C'est quoi un allié pour toi? Un
win? Ben, c'est probablement quelqu'un qui a conscience de son propre positionnement hein, en termes de privilèges et d'oppression, où je me situe hein, dans cette relation d'inégalité. Une fois qu'on a une reconnaissance de qui on est, de notre positionnement, à ce moment-là, c'est comment on peut soutenir finalement les personnes qui sont opprimées.
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
Épisode 36. Discussion sous la lentille de l'intersectionnalité avec Pascal Caïdor.
Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Allô tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode des Neurodivertissantes. Aujourd'hui, Mélissa et Solène sont là pour vous accueillir avec une invitée, bien oui, Pascal Caïdor de l'Université de Montréal. Donc, on est super contente de la recevoir. Comment ça va, mesdames?
Moi, ça va très bien.
Oui, moi également. Très bien. Très contente d'être là, en tout cas, avec vous. Merci pour l'invitation. Je sens qu'on va avoir une belle discussion.
Oui, ben on a commencé un peu en ronde et puis ça va vraiment être passionnant. Je vous écoutais puis ça, ouais, vraiment, j'ai hâte.
Ouais.
J'ai hâte à notre conversation.
Oui, parce qu'on avait déjà commencé à fleurir le sujet de l'intersexualité avec l'épisode avec Manu, si je ne me trompe pas, l'épisode 19, où on parlait de l'identité de genre, l'orientation sexuelle, puis toutes ces belles diversités-là qu'on retrouve au niveau de la communauté LGBTQ+, puis comment ça s'interrelie avec la neurodiversité. Mais c'est ça, dans le fond, toi, Pascal, tu es spécialiste au niveau de l'intersectionnalité à un plus grande échelle que ça, donc au niveau des différences ethnoculturelles, au niveau du handicap, au niveau de tout ce que ça peut intersectionnaler, j'invente des mots. Mais oui, je pense que c'est important d'en parler. Fait que bref, c'est pour ça que j'étais super contente parce que, ça habite beaucoup mes pensées de voir comment tout ça s'interrelie puis comment est-ce qu'on peut l'exprimer plus clairement aux gens.
Oui, ben je pense que c'est quelque chose, comme tu dis, de très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une lentille différente quand on réfléchit justement à des enjeux de discrimination. Puis déjà, le concept d'intersectionnalité nous fait voir qu'il y a différents modes de discrimination qui sont très spécifiques finalement. Mm-hmm. Ce croisement justement entre toutes les marqueurs d'identité que tu as nommés tout à l'heure nous permet de voir qu'il y a des angles morts dans la manière dont on va par exemple mettre en place des initiatives, etc. Alors moi je suis professeure en communication, donc je me suis intéressée justement aux initiatives en équité, diversité et inclusion, en particulier dans les organisations, et aussi d'essayer de comprendre justement à travers l'intersectionnalité par exemple, ou à travers aussi d'autres notions, comment on peut faire finalement pour soutenir les gens, que ce soit en milieu de travail, en organisation, etc., pour, je dirais, être plus inclusif. Mm-hmm. Je pense que c'est toujours ça le souci. On parle de diversité et inclusion qui sont très liées. Voilà, je me suis intéressée aux questions d'inclusion, de diversité, de par qui je suis. Bon, parce que je suis une femme noire d'origine haïtienne, née au Québec, et par aussi mes expériences, je crois, aussi en milieu de travail.
Mm-hmm. Oui, mais justement, tes expériences en milieu de travail, parce que tu as un parcours qui est somme toute atypique pour une professeure, veux-tu nous en parler un peu plus?
Oui, ben effectivement, on peut dire que j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai passé de nombreuses années sur le marché du travail. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs organisations publiques, privées, en relations publiques aussi. Puis ensuite, j'ai passé plusieurs années au gouvernement fédéral, à l'Agence spatiale canadienne, où je m'occupais administration, communication. Donc, j'étais très près des astronautes canadiens. Mm-hmm. Donc, ça, c'était vraiment super. Super intéressant. C'est justement pendant mon passage à l'Agence spatiale canadienne que j'ai commencé mon mémoire de maîtrise. Puis j'ai eu la piqûre, je dirais, pour la recherche. Alors là, j'ai décidé de dire OK, bon, je quitte le marché du travail et je vais faire mon doctorat en communication. Wow. Donc, je m'intéressais beaucoup à la question du changement dans les organisations. Puis finalement, de fil en aiguille, je me suis intéressée s'intéresser aux changements en lien avec la diversité et l'inclusion. Donc, sur une note plus personnelle, je suis mère de 3 garçons aussi. Alors, ça fait partie de ce bagage un peu aussi non traditionnel, du fait que, bon, j'ai eu des pauses aussi. Donc, j'ai pas eu une ligne droite qui m'a amenée à être professeure finalement d'université.
Wow!
C'est génial, on aime ça, disons, les parcours atypiques, c'est, ça nous reflète bien. On en a parlé d'ailleurs dans un autre épisode, mais on voit une affinité avec toi quand même.
Oui, puis je pense que ça prend beaucoup de courage aussi pour passer du monde du travail vers le monde académique comme ça, là. Surtout avec des enfants.
Oui, c'est complètement différent. Oui, ben c'est ça. C'est souvent, c'est complètement deux univers complètement différents. En même temps, je pense que l'un enrichit l'autre. Donc, l'expérience en milieu pratique m'a permis d'avoir peut-être un œil très différent sur justement les enjeux organisationnels. Et le fait de faire de la recherche, mais ça me permet aussi de dialoguer avec les gens qui sont du milieu pratique. Donc j'aime bien avoir les pieds un peu partout comme ça. Je suis un peu une touche à tout aussi, très curieuse. Voilà, un peu qui je suis.
C'est vraiment super. Puis dis-moi, avec justement avec les projets de recherche que tu fais, avec tout le travail que tu fais depuis que tu t'es vraiment intéressée au niveau de la communication puis au niveau des enjeux de la diversité dans les organisations, est-ce que tu aurais envie peut-être de nous parler des grands constats ou de ce que tu prêches ou ce que tu communiques ou ce que tu enseignes à plus haut niveau peut-être?
Oui, super. Donc, je me suis intéressée beaucoup au discours en lien avec l'équité, la diversité et l'inclusion. Quand on parle de discours, souvent on a l'impression vraiment des grands discours officiels, discours politiques. Moi, je me suis intéressée beaucoup à ce qu'on appelle les micro-discours. Donc, qu'est-ce que les gens disent à propos de l'équité, la diversité et l'inclusion? Donc, j'ai eu la chance, pendant que je faisais ma thèse de doctorat, de suivre comme ça des rencontres de travail où les gens parlaient d'équité, diversité et inclusion et d'analyser ces conversations-là. Savoir, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les principes, qu'est-ce qui favorise l'adoption, par exemple, des projets en équité, diversité et inclusion, mais qu'est-ce qui les freine aussi? Donc, je serais très intéressée par ce que les gens disent au quotidien sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Alors, j'ai fait ma petite enquête, si on veut, la recherche, un petit peu comme une petite recherche aussi, une enquête, où on écoute les gens... On écoute les gens parler, puis finalement, on en dégage des grands constats. Donc, je me suis intéressée à la question d'appropriation, c'est-à-dire comment les gens vont justement soit embarquer dans les initiatives comme celle-là ou dire « non, ça, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas », etc. Donc, en gros, c'est ce que j'ai exploré, c'est ce que j'ai regardé, donc les micro-discours sur la diversité, sur l'inclusion, ben voir comment tout ça prend forme finalement au quotidien quand on travaille dans une organisation, quand on fait partie d'un département, d'une unité, etc.
Fait que dans le fond, t'étudies comment est-ce que les bottines suivent les babines au quotidien.
Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils font finalement? Et même, j'irais plus loin, parce que pour moi, dire quelque chose, c'est aussi faire quelque chose. Donc, par exemple, on peut s'engager, on peut dans tout ce qu'on appelle les actes de langage. Donc, voir aussi qu'est-ce qu'on dit, mais comment ça a des conséquences aussi pour les personnes qui travaillent avec nous.
Fait que tout un concept.
C'est quoi le secret? C'est quoi le secret de voir, tu disais, qu'est-ce qui favorise l'adoption de ces pratiques-là? Alors, est-ce que tu as quelques conseils? Est-ce que tu as trouvé le secret du Graal?
J'ai pas trouvé le secret, malheureusement, mais il y a une question d'alignement, c'est sûr, entre, par exemple, l'organisation, que souvent, ils ont des valeurs qu'ils veulent mettre de l'avant, etc. Et essayer de comprendre aussi ce que les gens vivent sur le terrain. Et est-ce qu'il y a un alignement entre les grandes valeurs organisationnelles, les grands discours organisationnels? Donc, qu'est-ce qu'on dit dans l'organisation sur la diversité et l'inclusion? Est-ce que les gens, finalement, que ce soit les communautés qui sont discriminées, par exemple, à l'intérieur de notre organisation, comment eux-mêmes voient un petit peu leur situation à l'intérieur de l'organisation? Donc, déjà, avoir ce dialogue ouvrir cette conversation au sein de nos organisations, je pense que c'est un premier pas. Créer ces espaces de discussion où on peut justement réfléchir comment on voit les choses. Je pense que c'est déjà un premier pas vers un alignement, si on veut, de valeurs entre, si on part d'une organisation, les employés, par exemple, et la gestion d'une organisation, la direction.
Ouais, ben c'est un peu pareil. Tu sais, je fais de l'analyse de marque employeur, puis mais ça doit être pareil de ton côté. Mm-hmm. Tu sais, on voit que c'est la même chose pour n'importe quoi dans l'organisation. Finalement, il faut que la haute direction soit impliquée, puis qu'au quotidien, ce soit ce que les employés vivent. Et puis, il faut qu'il y ait un alignement, comme tu disais. Mais ce que je retiens, c'est que c'est... En fait, je ne sais plus ce que je retenais, mais outre ça, qui est quand même super important, mais c'est aussi que chaque communauté doit... c'est pas... Les employés ne sont pas un groupe monolithique. Il faut ensuite voir chacune des communautés qui en font partie, puis chacune des sous-cultures, pour qu'ensuite tout ça soit aligné. Donc, c'est pas juste c'est ça qui est innovateur un peu dans un sens, c'est que c'est pas juste la haute direction et les employés. C'est vraiment, faut encore plus s'attarder à ce que les sous-cultures font et disent et ressentent.
C'est ça, exactement. Tu sais, c'est exactement là où je m'en allais dans ma tête en parallèle, parce que il y a cette notion de représentation au sein de l'organisation. Tu sais, là, je pense qu'en ce moment, mon impression, c'est qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour avoir de la représentation au niveau plus élevé dans les hiérarchies des organisations, mais aussi au niveau des sous-cultures. Tu sais, comme tu disais, Solène, quand les messages de la haute direction passent, mais que les sous-cultures ne le font pas vivre dans les discours plus courts comme ce que tu étudies, mais c'est là où le disconnect se fait, puis qu'il doit avoir encore plus de sentiments que c'est pas vrai, que c'est pas authentique, puis que, tu sais, on dit qu'on est inclusif, mais je me sens pas inclus.
Puis là, les enfants sont vraiment complètes. Tu soulèves des bons points en termes de représentation versus l'inclusion. Donc, il y a beaucoup de programmes de diversité d'initiatives qui sont axés sur la représentation. Fait comment on peut justement amener notre organisation à avoir de plus en plus de gens qui sont, en tout cas, qui s'éloignent de l'idée de l'employé typique là, mm-hmm. qu'on a habituellement. Et une fois qu'ils sont, ils sont là à l'intérieur de l'organisation, mais comment on fait pour être inclusif, donc reconnaître leurs différences et valoriser aussi ces différences-là. Donc, c'est là que je fais la distinction entre inclusion et assimilation. Donc, cette idée d'assimilation, c'est qu'on va assimiler finalement des personnes qu'on identifie comme étant de la diversité à une culture dominante. Mm-hmm. Et à ce moment-là, oui, en termes de représentation, bon, on arrive à avoir plus de représentation, mais on va pas reconnaître ces différences-là, on va les assimiler à la culture dominante. Alors qu'en termes d'inclusion, ben, c'est valoriser ces différences-là, les reconnaître, et voir comment ces différences-là sont finalement une valeur ajoutée aussi à notre organisation, à notre entreprise. Donc, je pense que faire cette distinction-là, ben, déjà, c'est un premier pas entre vraiment représentation, donc diversité et inclusion, mm-hmm. en termes de reconnaissance des différences, du droit aussi à la différence.
C'est mm-hmm. ça. Dans ce que tu dis, tu sais, je ressors vraiment le discours au niveau de l'authenticité. Tu sais, quand on est en inclusion, les personnes ont le droit d'être elles-mêmes, d'être authentiques. Quand on parle d'assimilation, puis tu sais, pour l'auditoire qui est peut-être nouveau avec différents concepts d'inclusion puis de neurodiversité, tu sais, c'est un peu comme se dire, ben, OK, nous, on accepte, par exemple, les personnes de la communauté LGBTQ+, mais si, par exemple, je vais dans des gros stéréotypes, là, mais si t'es gay, arrive pas puis avoir l'air flamboyant. Là. Faut que t'as l'air hétéro, mais même si t'es gay, on va t'accepter. Fait que je pense que, tu sais, est-ce que je l'illustre correctement, Pascal?
Oui, vraiment bien illustré. Puis je pense que ça peut s'appliquer aussi à certains aspects culturels. Mm-hmm. Par exemple, quelque chose de très banal, mais qu'est-ce qu'on apporte dans notre boîte à lunch au travail? Est-ce qu'on va amener des mets qui sont typiques, puis que les gens vont poser des questions, puis qu'ils sont pas habitués avec les odeurs, avec les épices, puis qu'ils vont nous questionner, ou apporter quelque chose de plus qui passe plus inaperçu pour être sûr qu'on ne nous questionne pas, en fait, sur notre identité. Donc, ça va dans des choses très, très banales, comme apporter justement sa boîte à lunch au travail. Ça peut aller sur le genre de musique qu'on écoute. Hein. Souvent, on entend des histoires, quand on arrive sur le lieu de travail, ben là, je baisse ma radio parce que je veux pas qu'il qui m'identifie à tel ou tel genre médical, par exemple, etc. Donc, ça va loin, mais c'est l'idée que quand tu es différent, ben, tu laisses ton identité à la porte. Donc, c'est un peu, tu mets ton manteau dans ton vestiaire, puis tu mets ton identité pour te fondre un peu à la masse dans l'organisation. Et une fois que tu as fini, bon, mets ton carte de travail, ben là, tu reprends ton identité, puis tu t'en vas chez toi. Donc, c'est un petit peu l'idée, l'image, en tout cas, qu'on peut se faire l'assimilation versus l'inclusion en milieu de travail. Alors que si quelqu'un arrive avec son identité au travail et que cette identité est valorisée, bon, on voit que ça change complètement l'expérience de cette personne-là au niveau de comment qu'elle se sent comprise et acceptée dans sa différence. Je pense que c'est ça l'important.
Puis est-ce que tu pourrais me dire, tu sais, au niveau de la neurodiversité, on en parle souvent dans les épisodes, à quel point, tu sais, quand on met cette identité-là au placard avec notre manteau, le temps de rentrer travailler, tu sais, on appelle ça du masque, tu sais, on masque, on compense, on hyper-compense. Puis c'est des choses qui sont extrêmement énergivores au niveau cognitif pour les personnes neurodivergentes. Est-ce que, j'imagine que ça doit être un peu la même chose aussi pour quelqu'un qui doit toujours essayer de faire attention pour pas sortir du lot, pour, tu sais, masquer certains aspects de sa personne. Puis encore là, tu sais, je me dis, il y a un peu ce privilège-là de pouvoir le masquer, alors que, tu sais, si ta différence est en lien avec la couleur de ta peau, mais tu peux pas cacher la couleur de ta peau avec le reste de ton identité dans le garde-robe là, quand tu rentres travailler non plus.
Non, effectivement, tu peux essayer, bon, le plus possible, masquer ton accent, par exemple. Mm-hmm. Ça, c'est un autre exemple qu'on entend souvent. Donc, je vais avoir un accent très différent quand je suis au travail, puis quand j'arrive chez moi, j'ai changé mon accent, etc. Donc, il y a comme une déconnexion qui se fait, je dirais, entre nos perceptions, notre ressenti au travail, et vraiment, donc cette déconnexion fait qu'on est plus ou moins conscient de qui on est pendant qu'on est au travail. Et quand on sort, ben on se reconnecte. Et c'est tellement fort que quand on pense aux microagressions, par exemple, qu'on va avoir en milieu de travail, mais parce qu'on est déconnecté, parce qu'on laisse notre identité à la porte, quand il nous arrive des situations de microagressions où on se fait, par exemple, discriminer ou peu importe, ben on peut ne pas réagir tout de suite. On peut... est-ce que c'est à moi qui s'adresse? On peut se remettre en question, etc. Parce qu'on est déconnecté pendant 8 heures de notre identité propre. Donc, c'est assez fascinant de voir ça, tous ces mécanismes, en fait, qu'on peut mettre en place pour rentrer dans le moule. Et j'imagine, mais quand tu parles d'intersection entre minorités racisées, par exemple, et personnes neurodivergentes, mais là, on peut penser au double effort. Hein, quand on dit qu'on à l'intersectionnalité, ben, c'est pour voir aussi que quelqu'un d'une minorité racisée qui est en plus neurodivergente et en plus, ça peut être une autre marqueur d'identité, en fait, qui rend ça plus difficile. Mais à ce moment-là, c'est un effort supplémentaire à faire. Et là, c'est là qu'il faut faire attention avec l'épuisement et tout ça. Donc, ça peut avoir des conséquences très, très tangibles, très concrètes, je crois, en milieu de travail, en tout cas.
Et qu'est-ce qu'une organisation peut faire pour changer ce discours-là que ses membres tiennent? Est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on peut appuyer pour que la culture commence à changer?
Oui, ben super bonne question. Je dis au niveau de tout ce qui est l'excellence inclusive, je pense que c'est une bonne piste à explorer. Donc, se pencher vraiment comme organisation, mais c'est quoi nos critères d'excellence? Comment on définit l'excellence comme organisation? C'est quoi pour nous un employé typique, un employé idéal? Donc, déconstruire un peu les mythes qu'on a au niveau de l'excellence. Donc, pour être excellent, par exemple, il faut travailler de telle ou telle façon, etc. Donc, tout ça fait en sorte que les personnes qui ont des besoins spécifiques ne se retrouvent pas nécessairement dans les politiques organisationnelles, dans les pratiques organisationnelles, etc. Et de plus en plus, ben, on commence à faire de la place à des changements. Bon, si on parle de conciliation travail-famille, donc c'est une pratique organisationnelle quand même assez récente pour aider justement les femmes qui sont sur le marché du travail à concilier hein, travail et famille. Et je dirais que c'est la même chose. Il y a des pratiques, il y a des politiques aussi qu'on peut mettre en place pour aider les gens, par exemple, qui sont discriminés en milieu de travail. Comment on fait quand quelqu'un porte plainte, par exemple? Est-ce qu'il y a des mécanismes en place? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que les gens sont pris au sérieux, etc.? Donc, déjà, se pencher sur comment qu'on fonctionne, c'est quoi nos pratiques organisationnelles, c'est quoi nos critères d'excellence aussi, comment on définit cette excellence-là, c'est quoi un bon employé, un mauvais employé. Tout ça, ça joue aussi dans, je pense, la capacité de la personne à être libre, à se sentir libre d'être elle-même aussi en milieu de travail.
Et est-ce que le discours a changé avec les années? Est-ce que tu as observé qu'il y a eu une évolution de ce discours inclusif ou non?
C'est sûr qu'il y a eu une instrumentalisation un peu des discours sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Et on a vu bon, les entreprises bon, vouloir finalement tenir ces discours-là plus pour des questions de gestion d'image, par exemple. Ouais. Mais je dirais... En tout cas, ces dernières années, je remarque quand même, pour le travail que j'ai fait avec les institutions d'enseignement, par exemple, etc., qu'il y a quand même plus d'attention sur les enjeux en termes d'équité, diversité et inclusion. On en parle beaucoup plus. Il y a des projets de recherche qui se font, qui se faisaient pas avant, parce qu'on n'osait pas parler, par exemple, du racisme, etc. Alors qu'aujourd'hui, bon, on en parle de plus en plus. Donc, je pense qu'il y a quand même, en tout cas, je sais pas s'il y a des changements, mais en tout cas, il y a un discours, il y a des échanges qui se font, qui se faisaient pas avant. Donc, il y a des lieux de discussion comme votre podcast, par exemple, qui n'existait pas nécessairement avant. Et c'est la même chose au sein des organisations. Donc, je trouve ça intéressant de voir quand même, je sais pas si il y a des changements concrets, mais en tout cas, on en parle. Et je me dis qu'à force d'en parler, ben, il y a des changements qui vont finir par vraiment par se matérialiser, par se concrétiser dans les prochaines années, en tout cas. C'est un peu ma vision des choses. Voilà.
Puis justement, par rapport à ça, dans ce discours-là, ben, tu sais, je comprends qu'il y a une certaine maturité au niveau de la conscience sociale qui doit continuer d'évoluer, puis on est loin d'être rendu là, puis de se péter les bretelles, on s'entend. Mais la compréhension justement de l'intersectionnalité dans tout ce discours-là, est-ce que les gens commencent à comprendre ça dans ce que tu vois, ou c'est encore cette espèce de « mais qu'est-ce que cette intersectionnalité quoi? »
Oui, non, je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation puis à faire, et ça reste la notion d'intersectionnalité. De plus en plus on en parle, mais je dirais que les gens entendent le mot mais sans vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Donc dans mes ateliers de formation, j'essaie le plus possible d'intégrer, de vulgariser aussi les concepts. Je pense que les gens ils ont besoin beaucoup de cette vulgarisation, parce que oui, l'information est accessible, mais parfois c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui a vraiment jamais vécu, par exemple, des situations de discrimination, d'oppression. Ça reste des sujets qui sont un peu loin de leur réalité, donc c'est un peu normal d'avoir besoin, par exemple, qu'on vulgarise certains concepts, etc. Donc, je dirais intersectionnalité, c'est un des concepts qu'il faut en parler de plus en plus, puis pour que les gens comprennent vraiment c'est quoi. Mais non, je dirais que c'est un bon travail à faire. Puis je pense que des podcasts comme le vôtre, ça aide aussi à vulgariser des concepts qui sont peut-être un peu plus difficiles à saisir pour certains.
Ouais. Oui, parce que dans le fond, l'intersectionnalité, j'arrive à le dire. donc, l'intersectionnalité, en fait, c'est aussi qu'il y a de plus en plus de, je sais pas, le burden.
Oui. Ça donne à sortir un mot anglais.
Oui, moi, j'ai fait ça. Écoute, c'est la preuve que je suis vraiment fatiguée. Mais oui, des fois, je parle en anglais dans ma vie. Ça arrive. Et oui.
Puis j'avais envie de t'agacer.
Oui, hein, je sais. Puis je réponds tout le temps en plus. Mais c'est ça, c'est un peu ça le problème, entre guillemets, de ce qui est l'intersectionnalité. My God, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. C'est le poids de chacune des différences qui s'ajoutent et qui s'ajoutent. Parce que, dans le fond, c'est que c'est pas juste une situation qu'on peut corriger. C'est un peu la même chose qui se répète et qui se réplique. Et c'est un jeu de domino, finalement. Enfin, je pense. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, ben effectivement, c'est vraiment cette idée que même dans la manière dont on va mettre en place nos initiatives, par exemple, la manière dont on va réfléchir à un podcast, la manière dont on va réfléchir à une communication qu'on veut faire avec nos employés, etc., on va essayer d'avoir cette lentille intersectionnelle, alors de voir... Est-ce que j'oublie finalement des gens, des personnes qui ont des besoins particuliers, par exemple, ou qui vivent des situations particulières? Est-ce qu'ils font partie finalement de mon plan ou non? Donc, c'est vraiment cette lentille qui nous permet d'identifier des zones d'ombre dans la manière dont on va réfléchir nos stratégies, par exemple en milieu de travail, nos processus d'intégration, d'inclusion, etc. Donc, je pense que ça reste très pertinent. Mais là, la difficulté, c'est de rendre ça pratico-pratique. Donc, de voir comment on peut, au quotidien, avoir ce réflexe de dire que oui, on parle pas seulement des femmes, par exemple, on parle peut-être des femmes noires, on parle peut-être des femmes noires neurodivergentes. Donc, tu sais, voilà, donc il y a plusieurs couches et je pense qu'il faut avoir ça en tête, en fait, quand on réfléchit aux enjeux en termes d'équité, diversité, inclusion.
Ça me fait penser, tu sais, en termes de représentation, mais en termes de communication interne au sein des organisations, tu sais, des fois, je vois des articles passer, puis l'autre fois, j'en avais vu un c'est un gynécologue américain qui disait « J'ouvre ma nouvelle clinique, puis je veux juste savoir qu'est-ce que vous voulez dans ma clinique. » Puis il y avait des femmes qui disaient « Écoute, j'aimerais ça voir des photos ou des dépliants où ce que les femmes enceintes, ce sont des femmes noires. » Tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'on pense pas.
Oui, mais il y avait eu une illustration, justement, faite récemment qui a beaucoup, beaucoup circulé de justement, une femme enceinte noire, avec un fœtus noir. C'est comme ça. C'est révolutionnaire. C'est tout bête, mais en même temps, effectivement, on voit jamais ça.
Puis on s'entend que quand tu fais ton infographie, ça coûte pas plus cher de mettre la personne avec une couleur de peau différente, tu sais. Fait que, en tout cas, je vois tellement les liens au niveau de la communication aussi, puis comment ça s'articule à plein niveau qu'on peut ne pas soupçonner quand on est, justement, tu sais, dans mon cas, une femme blanche qui vit pas nécessairement des enjeux en lien avec la couleur de ma peau, là.
Mm-hmm. Oui, effectivement. Donc, c'est un super bel exemple. Donc, cette idée de juste avoir la représentation d'une femme enceinte noire dans un livre de médecine. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Je pense, la première fois qu'on voyait cette image-là. Donc, c'est vraiment cette idée de penser, tu sais, d'avoir cette pensée pour est-ce que dans la manière, donc ça c'est plus au niveau pédagogique, mais tu sais, au niveau de ma pédagogie, en salle de classe, les exemples que j'utilise, est-ce que j'ai la lentille intersectionnelle, où dans mes exemples, c'est toujours un étudiant type que j'ai en tête, puis que je vais justement mobiliser dans tous les exemples, etc. Donc dans les comme tu dis, dans les stratégies de communication en entreprise, dans l'environnement physique, souvent on parle de l'environnement physique, quand je marche dans les murs de mon organisation, de mon université, qui est représenté aussi sur les murs. Quand on ne se reconnaît pas, c'est sûr qu'on ne peut pas se sentir inclus et invité. Donc, je pense qu'il y a cette question de est-ce que je peux m'identifier à cette organisation-là? Est-ce que je me reconnais dans cet environnement-là? Est-ce que je suis la bienvenue, en fait? C'est un peu la question qu'on se pose, je pense, comme moi, comme personne noire. Donc, est-ce que je suis la bienvenue dans tel ou tel milieu? Donc, je vais toujours me poser cette question-là. Donc, c'est intéressant de voir que l'organisation aussi, si elle se pose la question de est-ce que j'ai invité ces personnes-là à venir dans mon organisation, mais je pense qu'on peut trouver un point d'entente, en tout cas.
Oui, mais justement, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas cette représentativité-là? Tu sais, quand il n'y a personne de cette différence-là encore dans l'organisation, puis... en fait, c'est aussi important de se familiariser avec d'autres groupes parce que, tu sais, la différence fait peur. Ce qu'on connaît pas fait peur. Généralement, il y a des préjugés, il y a ci, il y a ça. Donc, comment est-ce qu'on se sort de ce nœud-là, finalement?
Puis, je ferais du pouce sur ta question parce que je pense qu'on a une connexion Bluetooth aujourd'hui. Mais dans cet enjeu-là, justement, comment est-ce que... Tu sais, si par exemple, on veut représenter, mais qu'on veut pas faire... Tu sais, on a déjà parlé dans d'autres épisodes du tokenisme ou du poster child, tu sais, de s'assurer que, tu sais, il y a un peu cette... on veut attirer pour être plus inclusif, mais on n'est peut-être pas encore ou... Fait comment gérer ça aussi entre les deux quand on essaye d'atteindre un idéal sans tomber dans le tokenisme, là, par exemple?
Oui, super belle question. Ben, je trouve que juste en étant transparent, parce que souvent les organisations, on va cacher, par exemple, nos statistiques en lien avec la diversité, on veut pas trop en parler, de peur de se faire juger, etc. Mais en même temps, être transparent pour dire, ben voilà où est-ce qu'on est rendu, puis voilà où est-ce qu'on voudrait aller, voilà les pratiques qu'on met en place pour justement faire ce bout de chemin. Ben c'est beaucoup plus rassurant qu'une organisation qui cache l'information, qui veut pas donner, voilà, donc exactement le portrait actuel de leur employé, etc. Je voudrais que déjà ça parle aussi. Donc quelqu'un qui est pas transparent, mais ça parle beaucoup sur. Ok, bon, est-ce que leur démarche est honnête ou est-ce que c'est vraiment juste l'instrumentalisation pour une question d'image, etc. Donc je pense qu'il faut pas essayer d'aller trop vite, effectivement. Dans le sens que si on n'est vraiment pas une organisation diversifiée, on peut pas s'afficher comme étant diversifiée. Par contre, on peut quand même faire des étapes pour le devenir, pour voir ben, comment on peut changer nos pratiques. Est-ce qu'il y a des biais dans la manière dont on va justement recruter notre personnel, etc., en situation d'entrevue? Est-ce que les personnes sont formées pour reconnaître leurs propres biais en situation d'entrevue, etc.? Donc, je pense qu'il y a quand même des étapes qu'on peut faire, même si on n'est pas une organisation qui est diversifiée, pour se rendre là. Et je pense que le public apprécie cette transparence. Je pense que voilà, c'est un peu la première stratégie que je recommanderais.
Oui, puis je vois un corollaire à la transparence dont tu parles, c'est d'être humble, d'avoir l'humilité de dire qu'on n'est pas rendu là où on veut se rendre, mais qu'on est en démarche de le faire et qu'on ne sait pas tout et que ben on est ouvert à ça. Donc oui, un autre élément, ce serait d'avoir l'ouverture et la curiosité d'apprendre et d'aller plus loin que ça, je pense.
Parce que ça prend du temps, tu sais, ça, il ne faut pas se le cacher. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie des fois, puis souvent, on travaille en équité, diversité, inclusion, puis les gens veulent que ça aille vite, que le mois prochain, il soit diversifié, inclusif, et que, voilà. Mais ça prend énormément de temps de changer les mentalités, les façons de faire, les pratiques, etc. Donc, se donner le temps de changer, c'est aussi important. C'est aussi important de se donner le temps de changer avec les communautés qui font partie de notre organisation, si on en a. Donc, d'ouvrir le dialogue, dépasser le stade de la consultation. Donc, consultation, des fois, c'est un mot que j'aime pas trop entendre parce que j'ai l'impression qu'on consulte, puis après ça, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, on est plus dans la co-construction. Donc, on va vraiment ouvrir le dialogue et qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Et vraiment tenir compte, finalement, des opinions des gens qu'on consulte. Donc, pas faire de la consultation pour se donner bonne conscience, mais pour vraiment que les gens puissent participer au processus de prise de décision quand on veut changer les pratiques organisationnelles, quand on veut changer notre image aussi. Donc, tout ça, c'est des étapes qui sont importantes, puis ça doit se faire vraiment en impliquant tout le monde, tous les employés. Je pense que ça devient super important de le faire de cette façon-là. Donc, moi, je dis souvent aux entreprises, allez pas trop vite, mais faites la bonne chose pour que ça puisse durer longtemps. T'sais, donc, je pense que ce serait quelque chose de super, super important.
Oui, donc d'avoir des bases solides et puis de faire... Mais je pense, tu disais d'impliquer les employés, oui, mais aussi les communautés en général. Je veux dire, si tu sais que t'as beau... je sais pas, t'arrives pas à aller chercher des candidats qui sont de notre ethnicité, par exemple, mais c'est peut-être d'aller voir les organismes qui... parce qu'il y a des experts qu'on peut quand même aller consulter, mais ensuite, effectivement, il faut agir, il faut aller au-delà, il faut voir où sont les bloquants, puis remettre ça en question, revoir les politiques, parce que, bon, la culture, c'est large, mais on commence par les politiques, les actions concrètes, puis ensuite, on va plus loin. Et ça, tu voulais parler?
Non, mais ben oui.
Non, tu veux pas parler? Ok,
d'accord. Non, je voulais parler, c'était juste peut-être pas nécessairement en lien avec ce que tu venais d'apporter à la table, mais oui, puis non, j'avais un client, puis j'avais fait un rapport de recommandation sur une stratégie de marketing RH qui avait été faite, puis sur une des photos, puis là, je sais que c'était pas une photo stock parce qu'on voyait en arrière, l'emblème de la compagnie là, sur le mur, mais sur la photo, il y avait une femme voilée qui travaillait comme sur la photo. Puis quand j'ai été par en arrière puis chercher sur LinkedIn, voir tous les employés, tu sais, j'ai pas trouvé cette personne-là. Bon, peut-être qu'elle était pas sur LinkedIn, mais les les profils de personnes qui travaillent pour cette organisation étaient très homogènes, blancs. Fait que, tu sais, moi, ça faisait partie de mes recommandations de dire, ben, tu sais, si tu as personne dans ton organisation qui ressemble à la personne que tu présentes, puis que tu attires ces personnes-là, qu'est-ce que tu as en arrière pour assurer ça? Puis je pense que, tu sais, c'était comme un exemple concret que je pouvais apporter avec qu'est-ce que tu exprimais, Pascal. Puis en même temps, mais tu sais, avec ce que tu dis, Solène, je vois le lien aussi entre, tu sais, quand on parle d'intersectionnalité, puis le discours que j'entends des personnes qui s'intéressent à la neurodiversité, c'est de dire, OK, bon, mais les personnes neurodivergentes ont des forces, puis là, on veut sortir du paradigme de dire, bon, mais ces personnes-là sont des super-héros en créativité et innovation. on reste des personnes, mais... Tu sais, de targeter des personnes pour se dire, OK, bon, mais je vais être inclusif avec telle communauté parce que cette communauté-là a telle, je sais pas, telle qualité ou telle, tu sais, peu importe là, qui est avantageux pour mon organisation, mais on sort complètement du concept d'intersectionnalité dans des cas comme ça aussi.
Mm-hmm.
Ouais, fait que, tu sais, toi, dans le fond, puis là, je dis ça, mais tu sais, c'était pas pour défaire qu'est-ce que tu disais, Solène, non, était de là, c'était pour qu'on
fasse du poste. C'est quoi,
c'était vraiment juste pour faire du poste, parce que tu sais, peut-être que tu vas être intersectionnel, puis qu'une communauté dans toutes tes démarches, il y en a une que tu vois qu'il y a quelque chose qui fait que ça, c'est pas, t'es pas attirant par rapport à ça, mais justement, tout ça pour dire, dans le fond, tu sais, Pascal, au niveau de l'intersectionnalité, puis au niveau de cette représentation-là dans les communications, tu sais, Est-ce que tu as vu des exemples où les gens, tu sais, ça fonctionnait, ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient compris, puis comment ça s'était manifesté au sein de l'organisation?
Au niveau des représentations, tu veux dire si par exemple l'organisation n'est pas diversifiée, puis comment on peut la représenter?
C'est ça, puis au niveau vraiment de façon, tu sais, en prenant en considération l'intersectionnalité, puis de dire, bon, mais tu sais, je veux être inclusif, mais pour attirer des personnes, peu importe quelle est cette personne-là, selon. Sa vraie personne authentique, puis pas de dire, bon, ben, je veux attirer plus de personnes de minorités visibles ou je veux attirer plus de.
Ah, d'accord.
Je vers le tokenisme, ouais. Là, tu sais.
Oui, ben, c'est sûr que c'est éloigné de l'idée de quota aussi. Donc, bon, j'ai rempli mon quota, donc j'en prends plus d'autres cette année. Donc, je pense que oui, effectivement, on veut s'éloigner de cette idée-là. Donc, souvent, je fais la distinction entre deux types de diversité. Donc, la diversité de surface. Donc, en termes de représentation, on veut justement attirer des candidats, bon, pour avoir l'image de l'emploi. Vraiment de l'entreprise diversifiée, on va pouvoir le mettre sur les sites web, etc. Et la diversité profonde qui est un peu les manières particulières qu'on a de penser, de réfléchir, d'être aussi. Ben, je crois effectivement qu'il faut voir aussi au niveau diversité profonde qu'est-ce que ça veut dire pour notre organisation. Donc, outre être quelqu'un justement de racisé, est-ce que il y a des manières de penser, de voir, de créer des choses, etc., qui peut enrichir notre équipe. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi de voir ces différences-là comme un atout, comme quelque chose qui va permettre une certaine complémentarité de la façon de voir des enjeux, par exemple, etc. Donc, je pense qu'il faut le voir vraiment comme, oui, je veux des gens diversifiés en termes de diversité de surface, mais en termes de diversité profonde aussi. Je pense que ça va amener vraiment quelque chose de plus, que ce soit pour les prises de décision. Donc, déjà, si on n'a pas la même façon de voir les enjeux, bon, on va peut-être prendre de meilleures décisions. On va peut-être pouvoir... donc, je donne un exemple... si on a des ingénieurs qui pensent à inventer quelque chose, bon, on pense à l'intelligence artificielle, par exemple, etc. Alors, si moi, ben, je suis consciente qu'il y a des biais, etc., donc je vais pouvoir, comme personne racisée, avoir des idées pour essayer d'éviter qu'il y ait des biais, par exemple, dans la reconnaissance faciale ou des choses comme ça.
Oui.
Alors, c'est tout des... c'est toutes des valeurs ajoutées qui sont liées, je crois, à la diversité beaucoup plus profonde. Donc, c'est vraiment les manières qu'on a de voir les choses qui sont complètement différentes.
Oui, mais effectivement, la reconnaissance faciale, puis tu sais, celui qui va sentir, tu sais, juste pour prendre du savon, tu sais, quand c'est automatique, là, mettre notre main, puis c'est un cas avéré, tu sais, qu'effectivement, c'était pas designé pour les personnes racisées, et c'était un problème, puis ils ont juste pas pensé à ça, tu sais.
Voilà, exactement. Donc, il y a des oublis comme des angles morts. Donc, pour en revenir à ça, ben, l'intersectionnalité, c'est un peu ça, pour voir qu'il y a des angles morts, que ce soit parce qu'on veut innover, que ce soit qu'on veut prendre une décision. Si on n'a pas des gens qui pensent de manière différente, ben, on va prendre toujours les mêmes décisions, on va faire toujours les mêmes choses. Donc, je pense que c'est important de voir ça aussi. Donc, pas juste instrumentaliser la diversité pour dire que, oui, ça nous permet d'être plus performants et plus créatifs. C'est pas dans cet esprit-là que je le dis, mais ça nous permet de rendre compte qu'on a tous des manières différentes d'être, et c'est ça qui est enrichissant, finalement.
Oui, effectivement, puis je pense que c'est important de le faire à l'interne avant de l'afficher sur la place publique, parce que, ben, premièrement, si tu attires des candidats ou même des clients qui pensent que t'es inclusif et qu'au final, tu ne l'es pas, tu vas juste massacrer ta marque, mais c'est aussi parce que t'es plus... Bien, parce que c'est positif, en fait, d'être inclusif. Donc, c'est important pour ta culture, puis c'est...
Mais en termes de rétention aussi.
Oui, mais c'est ça, exactement.
Un autre problème que rencontrent les organisations, c'est que oui, on peut attirer peut-être des gens pour dire que, bon, on est plus diversifié, etc., mais est-ce qu'on est capable de les retenir après? Parce que si la culture, justement, est très oppressive, si on a une culture qui ne tient pas compte des différences, ben, les gens, ils ne resteront pas non plus. Donc, ils vont finir par aller ailleurs. Donc, là, on va avoir un problème de rétention. Donc, il faut travailler vraiment sur les deux tableaux en parallèle. Donc, représentation et inclusion de manière presque simultanée, parce que il y a la question, justement, que les gens se sentent assez bien pour rester aussi, parce que c'est une chose des attirer, mais est-ce qu'ils vont rester? Ça, c'est une autre question.
C'est ça, puis à l'inverse, au niveau de la mobilisation puis de la rétention des personnes, tu sais, si tu arrives dans une organisation parce qu'elle est inclusive puis qu'elle est réellement inclusive et que tu le vis, le risque de changer pour une autre entreprise qui ne l'est peut-être pas vraiment peut être perçu comme quelque chose qui va te dissuader à vouloir quitter ton employeur. Ou peut-être t'auras juste même pas envie de changer d'employeur, mais si tu te fais, mettons, approcher par un chasseur de tête, ça se peut que ça croise même pas ton esprit à cause de ça.
Oui, puis tu vas être fier de travailler pour ton organisation aussi. Donc, tu risques d'en parler autour de toi. Donc, tu risques d'attirer et de faire de la cooptation. Donc, ça a des impacts quand même majeurs sur... Puis, tu sais, qui dit être fier de son organisation, ça veut dire aussi des impacts sur la productivité carrément, parce que t'es mobilisé, comme tu le disais, puis tu vas être donc plus productif.
Le sentiment d'appartenance aussi, je pense, productivité, mais tu sais, sentir que oui, tu sais, j'ai ma place ici, je me sens bien. Et là, ça donne envie de se dépasser, de s'engager, etc. Donc, je pense que vraiment le sentiment d'appartenance, pour que vraiment renforcer ce sentiment-là, il faut vraiment que les personnes se sentent incluses, se sentent bien. Puis moi, très honnêtement, ça joue vraiment un rôle crucial. Quand je choisis une organisation pour laquelle je vais travailler, si je me sens pas bien, c'est pas inclusif, c'est possible que je reste vraiment pas longtemps au sein de cette organisation-là, parce que je vais finir par me sentir oppressée, tu t'étouffes un peu, tu t'étouffes, parce que c'est une culture qui est étouffante, qui veut te... Voilà, donc je pense que c'est vraiment important, tu sais, ça, je pense que s'il y a juste une chose que je voudrais qu'on retienne de ce podcast, c'est ça, de cet épisode-là, c'est vraiment ça.
Oui, hein. Puis ça a un impact aussi sur le sentiment de justice, je pense que... Puis c'est quelque chose que tout... pas mal toutes les minorités sont sensibles, je pense, là, tu sais, d'être inclus, d'avoir droit au respect, donc vraiment, cette justice sociale-là est super importante, je pense, pour la plupart des minorités, ou ne serait-ce, ou toutes même.
Oui, effectivement, puis la question des alliés aussi, je pense, qui est importante, parce que oui, offrir un milieu inclusif, c'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui vont peut-être résister et tout ça, bon, ça c'est normal, ça fait partie de la vie, mais voir aussi les alliés, comment on peut développer cette pratique au sein de notre organisation, donc il y a des gens qui sont intéressés, mais comment justement faire en sorte qu'ils ont encore plus de connaissances, encore plus le goût de finalement embarquer dans cette démarche d'équité, diversité, inclusion. Donc, comment on forme nos alliés, puis comment on garde nos alliés aussi. Donc, ça, je pense que c'est des pistes aussi de réflexion intéressantes.
C'est quoi un allié pour toi?
Ben, c'est probablement quelqu'un qui a conscience de son propre positionnement, hein, en termes de privilèges et d'oppression, où je me situe, hein, dans cette relation d'inégalité. Puis une fois qu'on a une reconnaissance de qui on est, de notre positionnement, ben à ce moment-là, c'est comment on peut soutenir finalement les personnes qui sont opprimées, comment on peut être justement un allié qui est soutenant, comment on peut aussi pas toujours aller vers les communautés pour essayer de comprendre, mais comment qu'on peut aussi aller chercher les connaissances, lire, partager nos lectures, etc., pour justement comprendre un peu plus la réalité des personnes qui sont différentes autour de nous. Donc, je dirais une définition, ouais, ce serait ça ma définition d'un allié. Donc, vraiment avoir cette reconnaissance de qui je suis. Une fois que je sais qui je suis, ben, comment je peux aider et soutenir les autres, finalement.
Mm-hmm. Puis, je pense qu'avec ce que tu dis, il y a un point important que je ressens, c'est le fait de s'éduquer par soi-même, d'aller chercher des ressources, des livres, des lectures, parce que, un peu comme on parlait avec la neurodiversité, tu sais, c'est pas parce que tu fais partie d'un groupe qui est marginalisé d'une certaine façon que tu as nécessairement l'énergie ou la capacité ou l'envie d'expliquer tout ça à quelqu'un. Tu sais, tu viens pas automatiquement avec ce rôle d'enseignant-là de ta diversité. Fait que si quelqu'un arrive puis fait déjà des démarches avant pour mieux comprendre, c'est plus facile d'engager le dialogue sur une base qui est rehaussée au lieu d'essayer de prendre l'autre personne par la main puis de lui faire comprendre.
Oui, exactement. Donc, pour pas mettre aussi la pression sur souvent une seule personne, par exemple, ou la personne racisée dans notre organisation. Donc, il faut juste être conscient aussi que cette personne-là a déjà beaucoup de pression parce que probablement qu'il y a plusieurs personnes qui viennent la voir pour savoir ben, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Donc, déjà avoir cette conscience-là. Puis effectivement, quand on fait ses devoirs, puis on vient avec des questions peut-être un petit peu plus précises, un petit peu plus pointues, ben, c'est déjà rassurant de voir que, ah, ben voilà, elle a fait ses propres démarches, donc ça me fait plaisir de donner un petit coup de pouce pour qu'elle aille plus loin. Donc, je pense que c'est éviter aussi la charge qui peut être assez pesante sur, les personnes, si je pense aux communautés racisées, par exemple.
Oui, mais on en avait déjà parlé avec le fait que les personnes neurodivergentes aussi ont ce poids-là de, tu sais, puis cette pression-là, et donc c'était peut-être pas nécessaire. Donc, mais c'est sûr que vient avec ça la responsabilité d'aller chercher des sources qui sont fiables, qui sont, tu sais, ça sert à rien de se renseigner si on va chercher une source qui n'est pas au fait de la situation, qui est biaisée tout autant que nous, lui, finalement.
Tout à fait. Donc, avoir des sources fiables. Il y a tellement de ressources, tu sais, maintenant. Oui. Il y a tellement de ressources fiables, je dirais, là, d'organismes vraiment qui se dédient à... Donc, il y a tellement de ressources. Je pense que c'est pas une excuse, en tout cas, pour... Parce que je trouve, en termes de livres, d'articles scientifiques, en termes de sites de vulgarisation, il y a énormément de ressources qui peuvent nous aider à avancer. Donc, pas hésiter, justement, à faire ses recherches. Puis je pense que, bon, en termes de fiabilité des sources, on est capable de voir quand même d'où ça vient, etc.
Oui, mais justement, on parlait de ça un peu tantôt quand on disait que l'organisation, quand elle n'a pas personne de ces communautés-là, comment est-ce qu'elle fait? Bien, c'est un peu ça la démarche, c'est d'aller se renseigner, d'aller confronter nos idées avec celles d'autres personnes, et puis ensuite d'apprendre de cette façon-là. C'est un peu ce rôle-là de... Enfin, l'organisation doit devenir un allié avant de même à accueillir des personnes différentes avec à leur sein.
C'est ça, puis tu sais, dans cette recherche-là, puis cette compréhension-là de la réalité de l'autre, ça me fait juste penser à quel point c'est important de mettre un peu sa lunette, de se dire, bon, ben c'est pour comprendre la réalité de l'autre, mais pas pour valider la légitimité de cette autre personne-là qu'on va faire de la recherche, qu'on va regarder, tu sais, dans le sens où, si on parle d'inclusion à un sens plus large, ou qu'on parle du design de l'inclusion sur le modèle universel, tu sais, de faire des recherches, c'est pas pour dire, ah, ben je comprends comment elle sent, fait que si elle me demande ou qu'elle dit quelque chose, elle a le droit, c'est légitime, je l'ai lu. C'est plus de dire, bon, mais j'essaie de comprendre une autre lunette. Fait que, et je pense que c'est comme, j'ai pensé à ça pendant qu'on parlait, puis je me suis dit, ah, je pense que ça serait important d'amener ce bémol-là aussi.
Oui, ben oui, parce que tu sais, on dit souvent, t'as rencontré une personne neurodivergente, t'as juste rencontré une personne neurodivergente, ben, c'est ça. C'est pas la, puis même chose pour n'importe laquelle des minorités, là, faut ensuite, chaque personne est individuelle, et donc unique, et donc...
Effectivement, il y a Terry Givens qui est professeur à McGill qui parle de radical empathy. Donc, vraiment avoir cette empathie qui est radicale. Donc, essayer vraiment de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre. Et à ce moment-là, ben, on devient plus conscient de qui on est aussi. Je pense que c'est très important, ce positionnement, qui je suis. Ça permet de voir ben, comment je participe parfois, sans le vouloir, à reproduire des systèmes, des situations aussi, des inégalités. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est important. Parce que des fois, même dans la façon dont on veut faire l'équité, la diversité et l'inclusion, on reproduit des situations d'inégalité où on n'écoute pas l'autre, où on prend les décisions à sa place, etc. Donc, je pense que ça, il faut faire attention aussi de comment on fait les choses.
Oui, on ne faut pas faire de capacitisme.
Non, c'est exactement ça. Puis, et c'est vraiment passionnant tout ça. Puis, j'aimerais ça, avec le temps qui nous reste, peut-être ramener la lunette un peu pour les personnes qui nous écoutent. Je sais quelques personnes, puis j'espère qu'il y en a plus que ceux que je sais, mais qui sont justement peut-être neurodivergents, qui sont d'une minorité ethnoculturelle différente que celle qui est prédominante au Québec. Donc, à ce moment-là, on a eu une discussion avant de commencer le podcast autour de, tu sais, par exemple, là, avec le fait d'être dans une communauté qui les parents sont immigrants, qui ont dû peut-être se battre beaucoup plus en arrivant au Québec pour juste manger, essayer de travailler puis répondre aux besoins de base. Quand un enfant, par exemple, vit des difficultés parce qu'il est neurodivergent, il y a un peu plus ou beaucoup plus de notions de tabou dans les communautés en fonction peut-être des enjeux qui sont vécus. Puis je trouvais que tu avais des réponses vraiment intéressantes autour de ce sujet-là quand on se parlait.
Oui, ben déjà quand on pense aux immigrants qui ont fui leur pays parce que bon, il y avait la dictature, donc je pense à Haïti, donc ils ont dû fuir dans des conditions souvent difficiles. Donc ils arrivent ici, il y a toute une intégration, savoir comment le système fonctionne pour être en mesure de trouver du travail, nourrir la famille. Souvent, il y en a un des deux qui vient, donc soit le père ou la mère qui est sur place, ou tu es encore en Haïti, il faut qu'il fasse des démarches pour faire venir. Donc on est vraiment dans une situation de survie. On va fuir une réalité, on n'a pas choisi de partir de son pays pour venir ici. Et là, on est vraiment dans un mode, je dirais, survie, où les besoins de base, c'est ce qui est important, et parce que, bon, justement, il faut nourrir la famille, on a des responsabilités, etc. Et ben, de plus en plus qu'on arrive finalement à fonctionner, ben là, on peut se rendre compte que, par exemple, notre enfant a des difficultés, etc. Et on peut le mettre, on peut décider finalement, peut-être d'une manière un peu involontaire, mais de fermer les yeux sur certains enjeux parce que ça fait pas partie de notre réalité immédiate qui est de combler nos besoins de base. Et il peut exister effectivement des tabous. Si je pense à certaines communautés noires, donc on parle des communautés noires parce qu'on a chacun, donc si je pense à la communauté haïtienne dont je fais partie, donc on peut avoir certains tabous à dire ben non, c'est ça, j'ai pas envie de faire évaluer mon enfant, etc. Parce que c'est pas accepté, parce que je vais pas le faire étiqueter, parce que je vais pas stigmatiser, parce que c'est déjà assez difficile d'être une minorité ici. Donc en plus, si je lui mets une autre étiquette, qu'est-ce qui va lui arriver, etc. Donc je pense qu'il y a toute cette idée aussi de voir que cette démarche-là finalement va pas nécessairement nuire à l'enfant, mais va l'aider. Donc il y a beaucoup de choses à démystifier, je pense, à essayer de vraiment voir comment on peut faire pour supporter plus ces familles qui sont prises parfois devant les difficultés de leur enfant. Par exemple, si on parle de l'enfant, comment on peut les aider, les soutenir. Parce qu'on sait que si on pense au système de santé, si on pense aux services sociaux, ben on sait qu'il y a des problèmes des fois au niveau d'accès, au niveau d'avoir des services dans la langue justement que la personne maîtrise, etc. Donc tout ça, ça peut jouer, et on parle même que ça peut aggraver les symptômes quelqu'un qui ne se fait pas évaluer, par exemple, très tôt, qui aurait pu avoir du soutien, etc. Donc comment rendre finalement les services santé sociaux plus accessibles aux personnes qui en ont besoin, et comment les soutenir aussi dans cette démarche-là, parce que c'est une démarche qu'ils connaissent peu parfois. Donc, il y a tout ça, je pense, qui est important.
Mm-hmm. Oui, quand tu parlais de la langue, effectivement, il y a l'accès, il y a juste l'aspect financier aussi, parce que bon, il y a le système public, mais c'est pas... faut y entrer dans ce fameux système public-là, et c'est pas toujours simple. Fait que si en plus il y a tout l'aspect de la langue et de la culture, et tu sais, il y a des tests qui sont basés sur la culture aussi, tu sais, je pense aux tests d'intelligence, par exemple, qui doivent être validés selon les différentes cultures parce que c'est pas le même selon les endroits dans le monde. Il y a comme plein d'enjeux auxquels penser qui sont pas forcément évidents.
Ben exactement. Donc, et je crois aussi beaucoup la confiance au système de santé avec toute la question du racisme systémique qu'on veut pas nommer, qu'on n'ose pas nommer, etc. et toutes les situations qu'on voit qui sont vécues par justement les minorités. Donc, il y a un bris de confiance aussi avec le système de santé. Donc, souvent, les gens vont pas nécessairement oser y aller parce que disent ouais mais est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils sont un peu contre moi ou ils sont là pour m'aider donc je pense que ça c'est aussi important de voir qu'on a les communautés en tout cas les communautés que je connais ont pas nécessairement cette confiance au système de santé et ça peut jouer dans vraiment avoir juste l'envie de commencer des démarches par exemple pour ses enfants.
Oui, mais déjà, je pense à l'autisme. Déjà, les femmes blanches ont de la difficulté à avoir un diagnostic, alors on passera même pas comme des racisées.
Oui,
oui. On rit, mais il ne faudrait pas se pleurer, malheureusement.
C'est
catastrophique. C'est déjà que l'ensemble des critères diagnostiques, on se les dit souvent, mais sont basés sur des jeunes garçons blancs de classe moyenne des années 90. De la représentativité dans les études a encore beaucoup de chemin à faire. Puis l'intersectionnalité dans tout ça, tu sais, je pourrais même pas réussir à m'imaginer c'est quoi la réalité d'être une deuxième génération de famille immigrante avec une neurodivergence. Tu sais, je pense que le poids de voir ses enfants, puis là, j'imagine seulement, puis je prétends pas savoir la réponse, mais le fait d'arriver dans un pays puis de voir tout pour son enfant, puis que son enfant réussisse. Puis on parle beaucoup des communautés migrantes qui veulent que leurs enfants deviennent avocats, médecins, etc., tu sais, pour avoir la vie qu'eux n'ont pas pu avoir, mais toute cette pression-là qui va venir mettre du poids sur « OK, bien, il faut que j'hypercompense puis que je réussisse, ça ajoute encore plus au niveau de la fatigue cognitive puis au niveau du masquage puis de l'hypercompensation, qui est quelque chose que moi, en tant que personne blanche, je pense que j'ai pas eu à vivre. »
Super intéressant, oui, effectivement. Donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre, mais comme tu dis, qu'il y a différentes réalités, finalement, dont il faut tenir compte quand on parle de neurodiversité. Donc, si on pense aux personnes qui sont racisées, ils peuvent vivre des situations qui sont complètement différentes des personnes qui ne le sont pas. Donc, à ce moment-là, comment on peut adapter même les campagnes de sensibilisation qui se font parfois dans les écoles, auprès des parents. Est-ce qu'on inclut justement cette lentille intersectionnelle quand on fait de la sensibilisation? Il y a tout ça, je pense, qui est à revoir, à repenser en tout cas.
Oui, ça me fait penser. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais apparemment que les communautés noires, sont moins diagnostiquées autistes que les populations blanches. Et puis, ça me fait penser à la situation des femmes qui ont moins de diagnostics. Tu sais, longtemps, on a dit, il y a plus de garçons que de filles qui sont autistes, et finalement, on se rend compte que c'est pas mal 50-50. Puis c'est un peu pareil dans les communautés noires, finalement, que plus ça va, plus on se rend compte que, ben ouais, il y a de l'autisme aussi dans ces communautés-là, et puis c'est pas mal les mêmes proportions au final, mais c'est juste qu'on n'a pas la grille pour analyser tout ça et s'en rendre compte, tu sais, c'est
quand même... Exactement, je pense que tu l'as bien dit au niveau de la grille de lecture, au niveau des... Est-ce que c'est les mêmes... il faut regarder les mêmes choses, les mêmes symptômes, etc. Donc, il y a toute une question, je pense... en tout cas, je suis pas médecin, mais ni psychologue et tout ça, mais je crois que c'est quand même important de voir qu'il y a différentes réalités, puis ces différentes réalités doivent être reflétées dans les processus d'évaluation, dans les processus de sensibilisation et dans tout le suivi. Donc, il suit aussi un diagnostic, en fait.
C'est ça. Puis il y a sûrement différents acteurs. T'sais, j'aurais aimé pouvoir recenser tout ça, mais je sais qu'il y en a qui vont venir devenir des pionniers dans leur communauté. T'sais, je sais, par exemple, mon psychiatre qui est un advocate là, pour toute la communauté chinoise, pour enlever les tabous au niveau des troubles de santé mentale avec les communautés immigrantes chinoises, étant lui-même chinois, puis c'est une perle, ce médecin. Mais tu sais, je sais qu'il y en a aussi qui essayent de faire une différence, c'est juste que c'est difficile de toutes les trouver, hein, mais il faudrait pas que ça soit nécessairement juste les personnes de ces communautés-là qui font le travail, mais qu'au niveau de cette lunette-là intersectionnelle, puis au niveau d'ouverture, puis d'être un allié, mais que chacun fasse ça, parce que sinon, ils fourniront pas ces pauvres personnes-là.
Ouais, oui, effectivement, c'est lourd.
C'est lourd. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre les expériences. Tu sais, ça, je pense que, même si effectivement, je ne veux pas toujours être la porte-parole, disons, là, mais je pense que d'entendre les différentes expériences, ça, je trouve ça riche. Puis je pense que justement on a intérêt à avoir des plateformes qui permettent d'entendre ces voix-là qu'on n'entend pas souvent dans l'espace public. Donc on n'entend pas vraiment ces personnes-là. Donc je pense que ça, c'est important d'ouvrir la place pour qu'il y ait d'autres discours, d'autres voix qu'on puisse entendre dans un podcast comme le vôtre. Donc, ça peut être intéressant, justement, d'avoir toutes ces plateformes qui permettent. Ça, je pense que c'est important.
Justice testimoniale. Allô, Amandine.
Oui, effectivement. Hey, les filles, le temps file. Je vais faire la germaine distance.
C'est passionnant, vraiment.
C'est trop intéressant.
Hey, on en parlerait encore pendant des heures, sincèrement. D'ailleurs, parce que c'est sûrement ce qu'on va faire. On va sûrement se lancer de ça. Mais pour finir, je me demandais si notre auditoire veut te jaser de tout ça et communiquer avec toi, est-ce que c'est possible? Par quel moyen est-ce qu'ils peuvent te joindre?
Oui, donc le meilleur moyen, c'est LinkedIn. Donc, vous pouvez juste me chercher, donc Pascal Caïdor, puis demande d'invitation, puis ça me fait plaisir de vous parler. Donc, vous pouvez me suivre comme ça sur les médias sociaux.
Excellent. Bon, on va donner le lien à notre auditoire, bien sûr, comme on
fait. Parfait. Donc, c'est vraiment agréable, vraiment une belle discussion. Moi aussi, j'aurais pu continuer pendant des heures et des heures. Vous allez devoir me réinviter, je pense, peut-être.
Oui,
vous n'allez pas avoir le choix.
Merci beaucoup, ça a été super agréable.
Merci à vous.
Oui.
Donc, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci de nous avoir écoutés encore une fois. Puis,
à de nouvelles aventures.
À de nouvelles aventures.
Merci tout le monde, à la semaine prochaine.
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.